Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chapitre 69, soit le 9e chapitre de Tyrion, toujours accompagné de mon collègue.
Toujours là.
Je ne me présente plus, Guillaume, bien sûr. Donc Guillaume, est-ce que tu pourrais commencer le résumé de ce chapitre?
Ouais, alors... Dans ce chapitre, on retrouve Tyrion à l'auberge du Carrefour, en compagnie de son père Tywin et de ses bannerets. Et Tywin découvre la nouvelle concernant son fils Jaime, qui a été capturé par Robb à Vive's Egg. Et la situation pour l'armée Lannister, en fait, elle est pas simple du tout. Ils ont plus Ned comme otage, ils sont encerclés de toutes parts par des ennemis. Tywin informe même que Tyrion, que Renly Baratheon a épousé Margaery Tyrell et s'est autoproclamé roi dans le sud. Et c'est à ce moment-là que Tywin va décider de d'abord régler ses comptes avec Robb avant de s'occuper de Renly. Et pendant ce temps, et contre toute attente, en fait, il va confier la lourde tâche d'assurer la fonction de main du roi à Tyrion en son absence.
Donc merci Guillaume pour ce résumé. Et donc, commençons notre discussion autour de ce chapitre. Il commence par l'apitoiement de Tywin Lannister. « Ils tiennent mon fils !» répétait-il. Je vous imagine bien qu'il voit grave, tu vois, comme dans la série. Je trouve que Tywin dans la série, il est vraiment bien incarné. Et tu sais, je me rappelle encore la scène quand il fait « They have my son !» Et tu sais, genre, en fait, il y a un silence autour. Tu sens que, je sais pas, il a tellement une présence que, en fait, tu le sens aussi dans ce chapitre que tout le monde s'était autour de lui, quoi. « Ils tiennent mon fils !» Donc, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler quelles ont été les circonstances de la capture de Jaime ?
Donc, initialement, en fait, Robb a divisé son armée en deux. Une pour... aller vers, je crois, longer la verfure, quoi, un truc comme ça, et accueillir l'armée de Tywin. Mais tout ça, c'était des fantassins, alors que la cavalerie, elle, traverse la verfure au niveau des jumeaux et se dirige tout droit vers Vive's Egg. Et ils ont pris... je crois ils ont surpris, en gros... Ah oui, pendant ce temps, Jaime faisait un siège, en fait, tenait un siège. Donc forcément, quand tu tiens un siège et que t'as une armée qui t'arrive dans le dos... C'est très compliqué de se retourner.
Ouais.
Et ils ont capturé Jaime là-bas.
Exactement, Guillaume. L'ambiance était sombre et silencieuse au sein de l'auberge du Carrefour où il crêchait. Harry Swift se plaignait de la bêtise de Jaime d'avoir séparé son armée en trois et ainsi de s'être affaibli. Alors, Guillaume, est-ce que tu as recherché dans les appendices qui était Harry Swift?
Ouais, c'est l'un des bannerets, des seigneurs bannerets des Lannister. Et il est décrit comme étant le beau-père de Kevan.
Exactement. Donc, il a fait marier sa fille, Dorna Swift, à Kevan Lannister, le petit frère de Tywin. Et donc, on apprend que la stratégie de Robb et de ses bannerets a été payante, vu que Jaime et ses hommes n'ont rien vu venir, dû à la configuration de Vive's Egg, parce qu'on sait que Vive's Egg, bon, c'est construit autour d'un cours d'eau, et donc que pour y accéder, il faut traverser des sortes de ponts, et en fait, lors d'une attaque, en fait, ils peuvent faire relever ces ponts, et donc ils sont obligés un peu de séparer leur armée en trois, vu qu'il y a trois cours d'eau qui entourent Vive's Egg, quoi.
Ouais.
Un messager apporte aussi la nouvelle à Sir Flemon Brax que pendant l'assaut, son père, Lord Brax, est décédé. Alors, en regardant les appendices, on comprend que c'est Lord Andros Brax. Mais on ne sait pas trop si ce Sir Flemon Brax est son héritier ou pas. En tout cas, les Brax, bon, ce sont des bannerets des Lannister. De plus, cette fin de siège a vraiment été une catastrophe, vu que Edmure Tully, frère de Catelyn et héritier de Vive's Egg, ainsi que les autres prisonniers qui avaient été capturés, furent libérés. Et maintenant, que l'armée de Jaime a été défaite, les lignes de ravitaillement de l'Ouest étaient coupées par les Stark et rien ne les empêchait à présent de marcher vers Castle Rock. Selon certains, il fallait même demander la paix à présent. Donc ouais, comme tu l'as dit dans ton résumé, en fait, ils sont un peu dans la merde, hein, les Lannister. Vu que être coupé de ces lignes de ravitaillement, c'est chaud. Vu que déjà, t'as plus de lignes de ravitaillement et pour la nourriture, ce qui est déjà important. Bon, là, on sent qu'ils sont très enclins à rasier les terres du conflant. Donc, peut-être que pour la nourriture, ce sera pas tellement un problème. Vu ce qu'ils ont fait aussi à celle qui gérait l'auberge du Carrefour, Marsha Idle. Elle a été pendue devant, dans une sorte de potence. Mais par contre, pour les hommes, c'est compliqué. Parce que du coup, ils peuvent plus, ils peuvent plus avoir d'hommes pour les soutenir. Et ils peuvent plus avoir de nouveaux soutiens, en fait.
Exactement.
Ouais. Et donc, le pire, c'est que, ouais, maintenant, enfin, en fait, il n'y a rien qui protège les terres de l'Ouest, il n'y a plus d'armée. Bon, il doit y avoir quelques garnisons par-ci par-là dans quelques châteaux, mais tous les Stark sont beaucoup plus proches des terres de l'Ouest que les Lannister.
C'est sûr.
Tyrion fracassa son verre contre le sol, car pour lui, c'est l'illustration de la paix qu'on pouvait demander aux Stark à présent que Joffrey avait décapité Eddard Stark. On évoque alors le fait d'échanger les filles de Lord et Dard contre Jaime et, même si ce n'est pas assez, car ce ne sont que deux fillettes, on payera une rançon supplémentaire. Donc, là, il parle des deux filles des stars, quoi. C'est-à-dire Sansa et Arya. Donc, je crois que la nouvelle que Arya n'a pas été capturée, elle n'est pas encore parvenue à Tywin et à Tyrion.
Je pense que déjà que Tywin, il est vénère, là.
Ouais.
Je pense que déjà, l'exécution de Ned, à mon avis, Tywin, il a dû faire « Oh, le fils de pute. Mm. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con ?» Alors là...
Mais en fait, on se rend compte que ça doit être Cersei qui a caché l'information, vu que c'est elle qui gère Geoffrey. Parce qu'à la limite, que Geoffrey fait décapiter Dard, comme tu l'as dit, doit se dire que c'est un con. Mais qu'on cache des informations de ce genre, ça, je pense que ça vient plutôt du fait de Cersei, qui a pas voulu avouer à son père qu'elle a laissé une des filles Stark s'échapper.
Ouais, je pense qu'elle assume pas, là.
Mmh. Une raison de plus pour laquelle on va voir qu'en fin de chapitre, Tywin, il a l'air assez remonté contre la gérance actuelle de Port-Réal et de la capitale, quoi. Vu comme c'est géré, peut-être que c'est un café du commerce là-bas, comment Cersei le gère. Mais du coup, oui, bon, du point de vue de Lannister, ce sera un très bon échange. Hein. Enfin, je veux dire, Arya Sansa qui représente rien contre Jaime Lannister, un membre de la garde royale, et qui est le premier fils de Tywin Lannister, et qui est le chevalier des, tu vois, le chevalier que tout le monde a l'air de d'estimer. Bon, Arya Sansa en comparaison, j'espère que la rançon supplémentaire elle sera conséquente, quoi.
Tu m'étonnes.
Dans le chapitre, on voit un camp belliqueux qui se dessine avec Adam Marfeu. Donc, alors, on avait déjà vu le nom de Marfeu dans les appendices. Guillaume, est-ce que t'as noté où?
C'est un Banneret Stark, hein.
Ouais. C'est un Banneret Stark. Et on
Lannister,
pardon. J'avoue, je répétais ce que tu disais. On a déjà vu le nom de Darlessa Marfeu, de Marfeu avec Darlessa Marfeu dans les appendices, vu que c'est la veuve de Tygett Lannister. Donc, Tygett Lannister, tu te rappelles, c'est qui, Guillaume?
C'était le second frère Lannister.
Ouais.
Le second frère de Tywin, qui est mort de la vérole.
Exactement. Et donc, ce Adam Marfeu, c'est un chevalier au sein de la maison Lannister. Que dans son camp avec Adam Marfeu, il y a Kevan, qui cherche à continuer la guerre, tandis que Sir Harry Swift et Lord Léo Lefford cherchent plutôt la négociation avec les Stark. Tywin sort alors de son mutisme pour répéter, encore une fois, ils tiennent mon fils. Donc, tu sens qu'en fait, dans le chapitre, tu sens qu'il écoute toutes les conversations, mais que ça a que très peu d'importance pour lui, quoi. Tout ce qui lui importe vraiment, c'est que, son fils a été capturé. Et en fait, dans ce chapitre, on essaye de comprendre la relation que, en tout cas, les sentiments que porte Tywin envers ses fils. C'est-à-dire que t'as l'impression que l'héritage, pour lui, c'est quelque chose de très important. La transmission, le fait, voilà, la lignée.
L'héritage, ouais.
Mais qu'importe, en fait, tu sens que, voilà, le long Lannister, c'est une marque pour lui. Même plus qu'une marque, c'est quand même un symbole. Et le fait qu'on tienne le fils de Tywin, c'est toute une question de symbolisme, en fait, pour lui. D'image, de représentation. Après, qu'il tienne beaucoup à ses fils d'un point de vue sentimental, on sait pas. Mais en tout cas, le fait qu'on ait capturé le fils de Tywin Lannister, ça, c'est quelque chose.
C'est un problème, ça touche son honneur.
Tywin demande alors à tous ses hommes de sortir, à l'exception de son autre fils, Tyrion, et de son frère, Kevan Lannister. D'après Tywin, Tyrion a raison sur le fait que la paix est maintenant impossible avec la mort des Stark. Mais pire, un nouveau roi s'est joint au jeu. Et il y a 2 semaines, Rhaenys Baratheon a épousé Marjorie Tyrell et revendiqué le trône. La famille régnante de Haut-Jardin a plié le genou devant lui et le sert à présent. Donc bon, alors, Rhaenys et Marjorie, on en avait déjà parlé au cours de ce tome, mais c'était pas par rapport à la relation entre les deux, donc est-ce que tu peux rappeler le contexte?
Attends, répète ta question, s'il te plaît.
Tu sais, l'association de Rhaenys et Marjorie Tyrell. On a déjà parlé au cours des précédents chapitres, surtout des Dards.
Ah oui, attends. Il me semble que Rhaenys avait l'intention un peu de virer Cersei pour la remplacer par Marjorie Tyrell. Mm-hmm. Et il avait notamment essayer de voir si auprès de Ned si Margaery ressemblait à sa sœur
Lyanna, ouais.
À Lyanna, ça, ce à quoi Ned a répondu absolument pas.
Ouais. Et donc en fait, c'était lors de la conversation entre Varys et Illyrio Mopatis que Varys avait confirmé en fait que Renly complotait avec son frère, avec Loras Tyrell, donc le frère de Margaery, pour que, comme tu l'as dit, hein, faire virer Cersei, qu'à la place Robert et pour Robert épouse Margaery. Mais donc en fait, à ce point-là, on se rend compte que c'est peut-être un peu plus profond, et qu'en fait, ça se trouve que Renly complote vraiment avec la famille Tyrell depuis le début, quoi. Si ça se trouve même avec le père, hein, Lord Mace Tyrell. Parce que pour que maintenant que Robert est mort, que ça soit Renly qui prenne sa place dans leur plan et que ce soit lui qui épouse Margaery, je pense que c'est quelque chose qui était fomenté en haut lieu dans la famille Tyrell. Donc c'est ça se trouve que c'est vraiment la famille Tyrell qui cherche le pouvoir en fait depuis le début. Et donc Robert était indéblonnable, donc il fallait bien passer par lui. Mais maintenant que Robert n'est plus et que voilà, une guerre se prépare, on sent que s'ils peuvent être directement dans une famille royale, bon, en tout cas dans une famille qui se prétend royale, ils viennent pas, quoi. Tyrion, comme le lecteur, peut se poser la question de la légitimité des revendications de Renly et de la position de Stannis, vu que Renly n'est que le cadet et Stannis l'aîné. Tywin voit en Stannis un homme très dangereux et écoute attentivement les récits de Varys, que Stannis construit actuellement une flotte et qu'il a fait venir Dashai, un ensorceleur d'ombre. Alors premièrement, c'est vrai que Renly, ses prétentions, elles viennent d'où, ça, on n'en sait rien. Parce que en soi, c'est que le cadet, donc je vois même pas pourquoi il cherche à avoir le trône. Je me rappelle que lors de la sortie, alors je crois que c'était lors de la dernière réunion entre Eddard et Robert, juste avant que Robert ne meure, et là où il lui fait signer son testament, il est sorti de la citadelle de Maegor, il a croisé Renly qui disait qu'il fallait attaquer maintenant, qu'il avait des hommes à disposition, et qu'il fallait prendre le château, sinon Cersei le fera à leur place, mais il n'avait jamais été question que Renly prenne le pouvoir.
Oui. Alors, contrairement à la série où il le dit clairement.
Ah ouais?
Dans la série, cette scène-là, il dit clairement, Stannis ne ferait pas un bon roi, moi je le, contrairement à moi, tu vois, entre comme ça.
Ah ils ont donné des justifications à Renly dans la série qu'ils n'ont pas dans le livre, en tout cas. Parce que là, pour l'instant, dans le livre, on sait pas.
Dans le livre, il le précise pas.
Ouais. Ça se trouve, c'est ça, hein. Ça se trouve, il pense qu'il serait un meilleur roi que Stannis. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on ne voit pas d'où viennent ces revendications, quoi. Deuxièmement, par rapport à Stannis, on sait déjà que c'est un homme assez... on avait dit quoi on avait, je crois qu'on l'avait qualifié de froid, quelque chose comme ça.
Froid,
austère.
Dur.
Ouais.
Dur.
C'est ça. Donc, on voit que c'est un homme dangereux, vu que même Tywin a l'air de se méfier de ce personnage. Je crois qu'on avait déjà été précisé qu'il construit actuellement une flotte. Je crois dans la conversation entre Varys et Larium Opatis. Et je crois aussi qu'on avait parlé de cet ensorceleur d'ombre, mais ça, j'en suis pas sûr. Peut-être que c'est la première mention.
Moi, il me semble que c'est la première mention dans le bouquin.
D'un ensorceleur d'ombre.
C'est ça.
Enfin, en tout cas, de l'ensorceleur d'ombre qu'il a fait venir Dashai. Mais du coup, un ensorceleur d'ombre, on en a déjà croisé une dans le récit. Avec. Miri Mazdur, ouais.
Miri Mazdur, ouais.
Ouais, parce que. Et on sait qu'elle, elle a pris ses arts à Ashai, hein. Elle a pris des arcanes secrètes à Ashai, ça on sait qu'elle est passée par là-bas. Et justement, dans le chapitre avec Daenerys, là, quand elle est sous la stante et qu'elle essaye de sauver Drogo avec les talons, on sait qu'il y a des histoires d'ombre, parce que Daenerys et même Jorah, après, l'a vue. Et je me rappelle que Daenerys, on en a déjà parlé, mais elle a vu...
un loup.
Voilà, un loup. Et je crois un homme dans des flammes. Un homme qui était dans des flammes. Mais donc après on voit que, et justement avec la conséquence que ça a eu pour Daenerys, on voit que il faut pas blaguer avec les ensorceleurs d'ombre. Hein.
Non, c'est sûr que... Après on sait pas à l'échelle d'une bataille entière ce qu'ils sont capables de faire, mais des trucs bressons qu'ils sont capables de faire.
Hein. Ouais, à l'échelle humaine en tout cas, on sait que voilà, faut pas blaguer avec eux.
C'est bresson, ouais.
Mais je trouve que, tu vois, Stannis fasse venir un ensorceleur d'ombre. Enfin, je veux dire, moi, je le pensais plutôt comme quelqu'un qui, justement, qui était tellement carré, tu vois, qui voudrait une bataille rangée, tu vois, avec des hommes normaux, en fait, tu vois.
Ouais, surtout que Stannis a l'air d'être, à la base, un seigneur de guerre. On sait pas où est-ce qu'il est allé chercher un ensorceleur, quoi.
Bah, visiblement, Ashai, hein. Mais... Ashai. C'est justement, parce que là, il se demandait pendant tout le tome où était passé Stannis durant... Enfin, justement, on sait que Stannis, il avait quitté... la capitale juste après le départ de Robert pour Winterfell, et lorsque Ned était arrivé à la capitale, il s'était demandé mais où est Stannis, et peut-être que Stannis justement il a fait un petit tour par Ashai, il s'est chopé un petit ensorceleur d'ombre, il est revenu à Perdragon, puisqu'on sait qu'actuellement c'est le seigneur de Perdragon. Tywin nous dresse ensuite un plan de leur situation. Roose Bolton et le reste de son armée sont à leur nord, les Stark tiennent les jumeaux et Mad Callin, ce qui interdit aux Lannister de traverser le Nord. Robb Stark, en tenant Vivzeg, leur interdit le retour vers les terres de l'Ouest. De plus, Tauros de Myr et Beric Dondarrion, que Ned avait envoyé puir à la montagne, harcèlent toujours le camp Lannister, malgré la mort de Ned. Et il fallait maintenant penser à Stannis, dans son île à deux pères dragons, Renly, au sud à Haut-Jordan, et Lysa Arryn, à l'est, toujours attentive. Donc là, quand ils dressent vraiment de façon linéaire tous les ennemis qu'ils ont autour d'eux, en fait, comme tu l'as dit dans ton résumé,
ils sont vraiment encerclés d'ennemis. Dans la merde.
Ils ont beaucoup trop d'ennemis différents, quoi.
Et partout. Au sud, au nord, à l'ouest, à l'est, c'est terrible.
Mais c'est marrant ça que Tauros de Myr et Beric Dondarrion, ils continuent à harceler le camp Lannister malgré la mort de Ned. Parce qu'en soi, Ned les a envoyés pionner à la montagne. Mais pourquoi ils continuent? Parce que vu que Ned est mort et que Joffrey est sur le trône, bon, ils ont plus aucune raison. Et en plus, ils n'avaient pas de greffe personnelle envers la montagne, tu vois. Alors peut-être que les griffes sont venues entre le moment où Ned les a envoyés et la mort de Ned. Mais là, ils ont plus aucune raison, en tout cas légitime, ou en tout cas de raison royale de continuer.
Ah, c'est sûr. Oui, c'est-à-dire qu'ils obéissent plus qu'à eux-mêmes, visiblement.
Oui, alors qu'en plus, ils ont des Tauros de Myr, non, parce qu'on voit qu'il vient de Myr, à son nom. Mais Beric Dondarrion, c'est un seigneur des Terres de l'Orage. Hein. Donc il a un fief sur lequel il doit retourner régner, peut-être. Là, il est parti comme ça, mais il voudrait peut-être revenir dans son fief, maintenant qu'il risque de se répliquer de ses titres par Joffrey. Tywin décide alors de partir pour Arryn-Hall, par peur de se retrouver coincé entre plusieurs armées. On savait déjà que les Lannister avaient pris Arryn-Hall, et que Lady Shelawent, la maîtresse des lieux, avait dû se rendre. Joffrey, en remerciement des actions de Janos Slynt, le commandant du guet, lors de la capture de Ned Stark, l'avait alors anobli et conféré Arryn-Hall. Et donc ça, tu sens que Tywin, il dit... John Austin, c'est qui? Je veux dire, pourquoi tu lui donnes tes terres?
Hein, oui, genre, mais c'est qui?
D'où il sort, lui? Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec John Austin? Il dit, John Austin, t'es bien gentil, là, mais t'as vraiment tes terres, hein. Quand même, du commun comme ça,
John Austin, who? Who?
Mais en fait, quand on regarde la carte, Tywin a peur de se faire encercler, donc il va rejoindre Arryn-Hall. Mais quand tu vois Arryn-Hall, en fait, c'est en plein milieu du conflit, genre.
Mais oui, mais c'est à la croisée, c'est exactement, c'est ultra stratégique comme point.
Bah, bon, que toutes les forces qui les entourent se réunissent pour aller les encercler vraiment. Après, on sait que Arryn-Hall, c'est une grande forteresse. Voilà, on sait ce qui s'est passé lors de la conquête d'Aegon. Franchement, est-ce que ça me permet d'être... Enfin, tu sens que c'est vraiment forcé, quoi. Disons que s'il avait le choix, il irait pas à Arryn-Hall, hein. Non, parce que comme c'est vraiment au centre, quoi. Donc, je veux dire, les stars qui peuvent venir du sud, t'as Rose Bolton qui traîne toujours dans le coin, t'as Tauros de Myr avec Beric Dondarrion et leur bande qui sont un peu partout dans le conflant, les Arryn, elle peut toujours envoyer son armée à un moment ou à un autre, tu vois. Moi, à nous, ça me paraît pas être très, très, très stratégique comme endroit. Après,
ça se garde bien, hein. Enfin, c'est censé être l'une des plus...
Ouais, une des plus grandes forteresses de Westeros. Kevan s'étonne car Arryn-Hall... Mais d'ailleurs, ouais, c'est ce que j'allais... Voilà, justement, c'est ce que j'ai noté après. Kevan s'étonne car Arryn-Hall est un endroit lugubre, maléfique, dont certains disent maudit. Donc, on sait juste que lors de la conquête d'Aegon, Arryn-Hall a été incendié, et deuxièmement que, bon, chez la WNT, on sait que c'est la dernière de sa lignée. Du pourquoi, ça se trouve, c'est quelque chose d'assez maudit dans le sens où peut-être que c'est pas facile de régner là-dedans. Peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose de mystique lors de la conquête, et comme Arryn-Hall a été incendié par les dragons d'Aegon, peut-être que tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas et que voilà. Mais je trouve que c'est pas un endroit ouf en termes d'emplacement, mais en plus le lion en lui-même, il a pas l'air ouf non plus, quoi.
Mais à mon avis, c'est pas le genre de truc dont Tywin se soucie. Les superstitions et les malédictions, à mon avis, c'est pas son problème.
Malédiction, enchantement, rien à foutre. Tywin décide d'y envoyer la montagne, ainsi que Varche et Evre. Alors, par rapport à Varche et Evre, en fait, dans le texte, c'est marqué Vargo Haute. Son nom original, c'est Vargo Haute. Et donc, dans le texte, normalement, parce que ça n'a pas encore été traduit, pas pour l'instant, mais en tout cas, dans ce premier tome, il s'appelle Vargo Haute. Plus tard, il va être traduit par Varche et Evre.
D'accord.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte, c'est pas tellement un spoil, mais on va se rendre compte plus tard hein, qu'il y a un jeu de mots avec le mot chèvre. Donc en fait, ça fait Vargo Haut, comme chèvre
en anglais, c'est goat.
Et comme ils se sont rendu compte plus tard qu'il allait avoir un jeu de mots avec chèvre, en fait, plus tard, il est remplacé par Varchèvre, Varchèvre, tu vois.
Ok.
Donc retenez pas le nom de Vargo Haut, mais retenez le nom de Varchèvre. D'ailleurs, il apparaît dans les appendices en plus.
Oui, il vient de la cité libre de Kohor.
Exactement.
C'est un mercenaire.
Et donc, il décide d'envoyer la montagne, Varchèvre et Sir Armorilorc. Et alors, t'as noté par rapport à Armorilorc dans les appendices?
C'est Seigneur Banneret Lannister.
Ouais, alors c'est pas un seigneur.
Oui, mais c'est un Banneret.
Ouais, c'est un chevalier Banneret.
C'est un chevalier, ouais.
Il les charge tous trois de brûler et de mettre à sang le conflant. Donc, ouais, tu sens que bon, si, comme Tywin, il peut pas revenir dans l'Ouest, il va se dire, bon, bah, tant qu'on est là, voilà, on va faire des bonnes actions, quoi. Lorsque Kevan fut parti transmettre les ordres et que Tyrion se retrouva seul à seul avec Tywin, notre nain préféré eut la surprise d'entendre par son père qu'il irait à Port-Réal. Et ce pourquoi? Pour gouverner. Tywin est furieux de la gestion du royaume par le conseil restreint, de l'éducation de Joffrey, ainsi que des dernières décisions prises, comme l'ordifier Janos Lint ou congédier Barristan Selmy et le remplacer par le limier. Ah ouais, donc pareil, ça, c'est comme ça, c'est comme Janos Lint pour le limier. C'est genre le limier, mais... Oh, le limier, quoi. On parle de la garde royale, donc tu vires Barristan Selmy pour mettre un... Ouais, j'avoue que, franchement, de l'extérieur, tu sens que bah, les décisions... Ça a pas l'air très cohérente, quoi. Donc, en fait, c'est pas dit texto dans le texte, parce que dans le texte, ils disent que Tywin envoie Tyrion pour gouverner. Dans ton résumé, t'as dit qu'il viendrait la main. C'est pas un spoil, puisque vous le découvrirez genre deux chapitres ou trois chapitres plus tard, parce que ça apparaît directement dans le tome 2, mais en fait, il y va pour devenir la main du roi, Tyrion.
Bah, de toute façon, on savait qu'à la base, Tywin devait devenir la main du roi de Joffrey.
Ouais. Donc là, il envoie...
Donc s'il envoie Tyrion à sa place, c'est pour remplir son rôle, quoi.
Tyrion, avant de quitter son père, lui demande quand même « Pourquoi moi ? Pourquoi pas son oncle Kevan ou un de ses chevaliers ?» Et Tywin répond sèchement « Parce que tu es mon fils. » Et Tyrion comprend à présent les raisons de Tywin. Car il considère Jaime comme foutu, il n'a plus que lui à présent. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé, parce que c'est marrant, parce que en fait, ce chapitre, c'est un chapitre de Tyrion. En fait, que Tyrion, il est que très peu présent dans
ouais,
ce chapitre.
Très peu.
Il sert vachement de, ok, c'est vraiment un pur point de vue, là.
Bah, là, en fait, on a l'impression qu'en présence de Tywin, Tyrion, il est beaucoup plus en retrait que d'habitude. Tu sais, il fait beaucoup moins ses blagues, il fait...
On a beaucoup ses pensées intérieures, mais ouais. Il exprime pas tellement, quoi. Mais, c'est vraiment un des chapitres où tu sens vraiment la notion de point de vue. C'est vraiment que, ok, t'as plusieurs personnages, et tu les places là où ça peut être intéressant d'entendre un récit, ok, il faut que quelqu'un forcément entende ce qui se passe par rapport au camp Lannister, que quelqu'un entende ce qui se passe par rapport au camp Stark, que quelqu'un... Tu sais, on parlait au tout début, je rappelle quand Jon est parti à la Garde de Nuit, que je disais que là, ça commence à prendre sens, la notion de point de vue. Parce qu'avant, dans les premiers tomes, je crois dans les 7-8 premiers chapitres, c'était tous réunis à Winterfell, à part Daenerys. Et là, en fait, je crois que tous les points de vue sont à des endroits différents, là.
Ouais.
Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a quand même 8 points de vue dans le tome. Et bon, on enlève Ned forcément parce qu'il est mort. Mais il y a Arya, Sansa, ok, Sansa est à Port-Réal parce qu'il faut un point de vue à Port-Réal. Arya est, on ne sait où d'ailleurs, pas l'état à Port-Réal, mais bon, elle est partie avec, comment il s'appelle le mec de la garde de nuit qui est venu la chercher là.
Ah putain, comment il s'appelle
J'ai oublié son nom. Mais bon, bref, il est avec le mec de la garde de nuit. Celui qui a prévenu Ned que Catelyn avait capturé Tyrion. T'as John qui est au mur, t'as Catelyn qui est... Bon, Catelyn, elle est, voilà, elle a vive zeg parce qu'il faut quelqu'un dans le camp des stars, Tyrion il est là. Enfin voilà, ouais, ils sont tous... Et t'as Daenerys qui est... Voilà, où est Daenerys?
Elle est dans son propre jeu. Dans son propre game.
Et du coup, ouais, bon, alors par rapport à... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais Tyrion dans ce chapitre, il se dit beaucoup que... Tu sais, il se dit beaucoup, ouais, mais c'est... Il se dit beaucoup, ouais, c'est que maintenant que tu me considères comme ton fils. Genre, jamais de toute ma vie, tu m'as considéré autant que maintenant que Jaime est capturé, quoi.
Bah, surtout qu'on sent que, quelque part, je sais pas, Tywin, il a pas beaucoup de respect pour Tyrion, mais il reconnaît quand même que...
Tu trouves qu'il a pas beaucoup de respect?
Ouais. Bah, je pense déjà pour le...
Ah ouais, en fait, oui, t'as raison. En fait, j'aurais dit plutôt de l'estime. Mais je pense que...
En termes de respect, c'est mort, mais ouais. il sait de quoi est capable Tyrion.
Non, il connaît ses qualités.
Il connaît ses qualités. Et donc, que même s'il a pas de respect pour lui, ça le dérange pas de l'utiliser, quoi.
Mmh.
Genre, il reconnaît qu'il est utile.
Ouais.
Et donc, je pense que il aurait pas confié avec autant d'aisance la qualité de main du roi. Je pense que même Jamie, il aurait pas laissé en indépendance Jamie. Tu sais, il aurait peut-être laissé Jamie être main du roi, mais il aurait voulu quand même, je sais pas, dire à Jamie ce qu'il devait faire.
Ouais, tu penses qu'il reconnaît tellement les qualités de Tyrion, enfin, ça veut dire son intelligence.
Parce que là, visiblement, je pense qu'il va pas commander à Tyrion.
Quoi faire. Il fait confiance pour la gestion. Je pense pas qu'il fait confiance, mais il sait que Tyrion va savoir bien gérer le royaume, quoi.
Ouais.
Sur ce point-là, il sait qu'il en est capable. Mais après, est-ce que tu vois, parce qu'il y a quand même deux choses, c'est qu'il lui dit quand même droit dans les yeux, bah, parce que t'es mon fils. Et il l'envoie, enfin, il lui confie quand même cette position qui est, la position la plus haute du royaume après celle du roi.
Ouais, mais je sais pas s'il voulait lui dire ça juste pour le motiver un peu, tu vois.
Ah, tu penses?
Pour moi, la vraie raison de Tywin, c'est parce que t'en es capable. C'est pas parce que t'es mon fils, parce que t'en es capable. Et ouais. Peut-être.
Mais quand même, tu vois.
Et plus parce que t'es mon fils, parce que t'es mon sang et que t'as le nom de Lannister et le respect qui va avec des gens. Pas parce que t'es mon fils, parce que je tiens à toi, tu vois, ou je sais pas quoi.
Ah ouais.
C'est parce que
après ça pourrait être aussi Kevin, tu vois. Kevin Lannister, c'est quand même
mais il a plus confiance, mais je suppose qu'il a plus confiance en l'intellect de Tyrion que dans celui de Kevin.
Mais faut pas oublier que Tywin, il a déjà été main du roi.
Oui, oui.
Ça, on le sait déjà.
Ça, on sait.
Il a été main du roi Daenerys Targaryen. Et d'ailleurs, il a rêvé une mésaventure au justicier du roi, Cyrilyn Payne. Je crois que ça a été dit que, en fait, il s'était fait couper la langue. Parce que, un jour, Aerys l'avait chopé à dire que en fait c'était Tywin qui gérait, que en gros oui bien qu'Aerys c'était le roi, c'était Tywin qui dirigeait le royaume, et c'est à cause de ça qu'il s'était fait couper la langue par Aerys. D'ailleurs, on avait eu un problème au niveau des dates par rapport à ça, tu sais, je crois qu'on a dit qu'il s'était fait couper la langue il y a je sais plus combien d'années.
Ouais, en fait, c'était un peu bizarre.
Ouais, et en fait ça correspondait juste à la fin de la rébellion de Robert ou quelque chose comme ça, alors que Tywin n'était plus la main du roi à cette période là enfin bref, avant de se quitter, Tywin glisse à Tyrion: d'ailleurs, tu n'emmènes pas ta pute à la cour. Un ordre que Tyrion, en conclusion de ce chapitre, ne semble pas vouloir écouter. Donc, d'ailleurs, pourquoi Tywin lui dit ça? Je pense qu'il a peur que, je sais pas, est-ce qu'il a peur que Tyrion ait des distractions qui l'empêchent de bien faire son travail, ou parce qu'il veut le priver de bonheur? Et, non, peut-être qu'on sait pourquoi, c'est à cause de, tu sais, de l'histoire qu'il y a eu avec cette fameuse Tisha. Tu sais,
Oui. La prostituée...
Oui, la prostituée de Tyrion, exactement.
Oui.
C'est ce que lui avait offert Jaime pour son anniversaire, pour faire de lui un homme.
Putain, le pire cadeau, quoi.
Est-ce que c'était pour son anniversaire, d'ailleurs? Peut-être que c'était même pas pour son
anniversaire. Non, je crois que c'était juste parce qu'il disait qu'il serait temps que Tyrion soit un homme, quoi.
C'est ça. Et alors, la petite histoire, c'était que, en gros, au matin, je crois qu'elle était venue à la cour de... Comment s'appelle la capitale des bords de la capitale des Lannister? Castrally Rock. Et que, en gros, chaque homme, je crois que c'est chaque garde qui l'avait baisé ensuite, et qu'il avait payé chacun avec une pièce d'argent. Et Tyrion, lui, il avait dit payer avec une pièce d'or parce que c'était un Lannister. Et il avait dû regarder tous les gardes la baiser devant lui, quoi.
Et après, passer après,
Ouais.
C'est ignoble.
Mais ça, j'ai toujours pas compris qu'il est passé après.
Bah, on a discuté de ça, et moi je pensais que non, et toi tu m'as dit que t'avais vérifié que c'était si, finalement.
Ah ouais? Putain, c'est vraiment horrible cette histoire, quoi. Non, il est serein de Tyrion, hein. Franchement, je me rappelle que c'était Bronn qui disait que un homme qui lui aurait fait ça, il l'aurait tué. Et je crois que c'était Tyrion qui a répondu juste après: oui, mais Bronn, n'oublie pas qu'un Lannister paye toujours ses dettes. Enfin voilà. On a terminé pour ce chapitre de Tyrion. On espère que vous avez apprécié nous écouter, nos discussions autour de ce chapitre. Donc si vous voulez continuer l'aventure avec nous, rajouter des choses ou évoquer des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, on est présent sur les réseaux sociaux ou par mail. En tout cas, merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine.
À la prochaine.